Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'aurai le plaisir de lire à haute voix des extraits de romans, de correspondances, des poésies et autres textes littéraires d'auteurs contemporains ou classiques. Je vous propose de commencer par un cycle consacré à l'amour dans ses différentes déclinaisons. Et aujourd'hui, j'ai choisi « Passion simple » de Annie Ernaux, paru en 1992 chez Gallimard. Dans ce court texte autobiographique, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022 et pionnière dans sa façon de mettre à nu la vérité au plus près de son vécu, sans aucun lyrisme, analyse les signes d'une passion amoureuse de quelques mois, durant lesquels elle n'a fait qu'attendre le diplomate soviétique en mission en France, marié par ailleurs, qu'elle aimait. Écrire est pour Annie Ernaux une manière d'atteindre la réalité de cette passion qu'elle affirme avoir vécue lorsqu'elle était âgée de 49 ans et lui 35. En voici le texte que j'ai adapté. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant. Mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même, se formaient dans ma bouche sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir, et quelque chose qui doit être l'intelligence humaine, prévoir, évaluer le pour et le contre, les conséquences, avaient tout un lien avec cet homme. Lire dans le journal les articles sur son pays, il était étranger. Choisir des toilettes et des maquillages. Lui écrire des lettres. Changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre. Noter ce que je ne devais pas oublier de lui dire la prochaine fois, qui était susceptible de l'intéresser. Acheter du whisky, des fruits, diverses petites nourritures pour la soirée ensemble. Imaginer dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Dans les conversations, les seuls sujets qui perçaient mon indifférence avaient un rapport avec cet homme, sa fonction, le pays d'où il venait, les endroits où il était allé. La personne en train de me parler ne soupçonnait pas que mon intérêt soudain intense pour ses propos n'était pas dû à sa façon de raconter, et très peu au sujet lui-même, mais au fait qu'un jour, 10 ans avant que je le rencontre, A, en mission à La Havane, était peut-être entré justement dans ce nightclub, le Fiorendito, que, stimulée par mon attention, elle me décrivait avec un luxe de détails. De même, en lisant, les phrases qui m'arrêtaient avaient trait aux relations entre un homme et une femme. Il me semblait qu'elle m'apprenait quelque chose sur A et donnait un sens certain à ce que je désirais croire. Ainsi, lire dans « Vie et destin » de Grossmann que lorsqu'on aime, on ferme les yeux en embrassant, me portait à imaginer que A m'aimait puisqu'il m'embrassait ainsi. Le reste du livre, ensuite, redevenait ce que toute activité a été pour moi pendant une année, un moyen d'user le temps entre deux rencontres. Je n'avais pas d'autre avenir que le prochain coup de téléphone fixant un rendez-vous. J'essayais de sortir le moins possible en dehors de mes obligations professionnelles, dont il avait les horaires, craignant toujours de manquer un appel de lui pendant mon absence. J'évitais aussi d'utiliser l'aspirateur ou le sèche-cheveux qui m'aurait empêché d'entendre la sonnerie. Celle-ci me ravageait d'un espoir qui ne durait souvent que le temps de saisir lentement l'appareil et de dire « Allô ?» En découvrant que ce n'était pas lui, je tombais dans une telle déception que je prenais en horreur la personne au bout du fil. Dès que j'entendais la voix de A, mon attente indéfinie, douloureuse, jalouse évidemment, se néantissait si vite que j'avais l'impression d'avoir été folle et de redevenir subitement normale. S'il m'annonçait qu'il arrivait dans une heure, une opportunité, c'est-à-dire un prétexte pour être en retard sans donner de soupçon à sa femme, j'entrais dans une autre attente, sans pensée, sans désir même, au point de me demander si je pourrais jouir, rempli d'une énergie fébrile pour des tâches que je ne parvenais pas à ordonner. Prendre une douche, sortir des verres, vernir mes ongles, passer la serpillière. Je ne savais plus qui j'attendais. J'étais seulement happée par cet instant, dont l'approche m'a toujours saisie d'une terreur sans nom, où j'entendrais la voiture freiner, la portière claquer, ses pas sur le seuil de béton. Quand il me laissait un intervalle plus long, 3 ou 4 jours entre son appel et sa venue, je me représentais avec dégoût tout le travail que je devrais faire, les repas d'amis où je devrais aller avant de le revoir. Et je vivais dans une hantise croissante qu'il survienne n'importe quoi empêchant notre rendez-vous. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi en voiture et qu'il devait arriver une demi-heure plus tard, j'ai eu la pensée rapide que je pourrais avoir un accrochage. Aussitôt, je ne sais pas si je m'arrêterai. Une fois prête, maquillée, coiffée, la maison rangée, j'étais, s'il me restait du temps, incapable de lire ou de corriger des copies. D'une certaine façon aussi, je ne voulais pas détourner mon esprit vers autre chose que l'attente de A, ne pas gâcher celle-ci. Souvent, j'écrivais sur une feuille la date, l'heure et « il va venir », avec d'autres phrases, des craintes, qu'il ne vienne pas, qu'il ait moins de désir. Le soir, je reprenais cette feuille « il est venu », notant en désordre des détails de cette rencontre. Puis je regardais hébété la feuille gribouillée avec les deux paragraphes écrits « avant » et « après » qui se lisaient à la suite, sans rupture. Entre les deux, il y avait eu des paroles, des gestes qui rendaient tout le reste dérisoire, y compris l'écriture par laquelle j'essayais de les fixer. Un espace de temps, délimité par deux bruits de voiture, sa R5 freinant, redémarrant, où j'étais sûre qu'il n'y avait jamais rien eu de plus important dans ma vie, ni avoir des enfants, ni réussir des concours, ni voyager loin, que cela. Être au lit avec cet homme au milieu de l'après-midi. Cela ne durait que quelques heures. Je ne portais pas ma montre, la retirant juste avant son arrivée. Il conservait la sienne, et j'appréhendais le moment où il la consulterait discrètement. Quand j'allais dans la cuisine chercher des glaçons, je levais les yeux vers la pendule accrochée au-dessus de la porte. Plus que 2 heures. 1 heure, ou dans 1 heure je serai là et il sera reparti. Je me demandais avec stupeur où est le présent. Avant de partir, il se rhabillait posément. Je le regardais boutonner sa chemise, enfiler ses chaussettes, son slip, son pantalon, se tourner vers la glace pour nouer sa cravate. Quand il aurait mis son veston, tout serait fini. Je n'étais plus que du temps passant à travers moi. Aussitôt après son départ, une immense fatigue me pétrifiait. Je ne rangeais pas tout de suite. Je contemplais les verres, les assiettes avec des restes, le cendrier plein, les vêtements, les pièces de lingerie éparpillées dans le couloir, la chambre, les draps pendant sur la moquette. J'aurais voulu conserver tel quel ce désordre où tout objet signifiait un geste, un moment, qui composait un tableau dont la force et la douleur ne seront jamais atteintes pour moi par aucun autre dans un musée. Naturellement, je ne me lavais pas avant le lendemain pour garder son sperme. Je calculais combien de fois nous avions fait l'amour. J'avais l'impression que, à chaque fois, quelque chose de plus s'était ajouté à notre relation, mais aussi que c'était cette même accumulation de gestes et de plaisirs qui allait sûrement nous éloigner l'un de l'autre. On épuisait un capital de désir, ce qui était gagné dans l'ordre de l'intensité physique était perdu dans celui du temps. Je tombais dans un demi-sommeil où j'avais la sensation de dormir dans son corps à lui. Le jour suivant, je vivais dans une torpeur où se reformait indéfiniment une caresse qu'il avait eue, se répétait un mot qu'il avait prononcé. Il ne connaissait pas de mots français obscènes, ou bien il n'avait pas envie de les utiliser parce que ceci n'était pas pour lui chargé d'interdit social. Une fois, à la station Opéra, plongée dans ma rêverie, j'ai laissé passer sans m'en rendre compte la rame que je devais prendre. Cette anesthésie se dissipait progressivement. Je recommençais d'attendre un appel, avec de plus en plus de souffrance et d'angoisse, au fur et à mesure que s'éloignait la date de la dernière rencontre. Plus les jours se succédaient sans qu'il m'appelle, plus j'étais certaine d'être quittée. Les seuls moments heureux, en dehors de sa présence, étaient ceux où j'achetais de nouvelles robes, des boucles d'oreilles, des bas, et les essayais chez moi devant la glace. L'idéal, impossible, consistant en ce qu'il voit à chaque fois une toilette différente. Il apercevait à peine 5 minutes mon chemisier ou mes escarpins neufs qui seraient abandonnés n'importe où jusqu'à son départ. Je savais aussi l'inutilité des fringues devant un nouveau désir qu'il aurait eu pour une autre femme. Mais apparaître dans une toilette qu'il avait déjà vue me paraissait une faute, un relâchement dans l'effort vers une sorte de perfection à laquelle je tendais dans ma relation avec lui. Dans la même volonté de perfection, j'ai feuilleté dans une grande surface « Technique de l'amour physique ». Sous le titre, il y avait écrit « 700 000 exemplaires vendus ». Souvent, j'avais l'impression de vivre cette passion comme j'aurais écrit un livre. La même nécessité de réussir chaque scène, le même souci de tous les détails, et jusqu'à la pensée que cela me serait égal de mourir après être allé au bout de cette passion, sans en donner un sens précis à « au bout d'eux », comme je pourrais mourir après avoir fini d'écrire ceci dans quelques mois. J'essayais, devant les gens que je fréquente, de ne pas laisser transparaître mon obsession dans mes paroles, bien que cela réclame une vigilance difficile à maintenir constamment. Chez le coiffeur, j'ai vu une femme très volubile, à qui tout le monde répondait normalement, jusqu'au moment où, la tête renversée dans le bac, elle a dit « On me soigne pour les nerfs ». Aussitôt, imperceptiblement, le personnel s'est adressé à elle avec une retenue distante, comme si cet aveu irrépressible était la preuve de son dérangement. J'avais peur de paraître, moi aussi, anormale, si j'avais dit « je vis une passion ». Pourtant, quand je me trouvais au milieu d'autres femmes, à la caisse du supermarché, à la banque, je me demandais si elles avaient, comme moi, un homme sans arrêt dans la tête. Sinon, comment elles faisaient pour vivre ainsi, c'est-à-dire, d'après mon existence d'avant, en ayant comme attente que le week-end, une sortie au restaurant, la séance de gym, ou les résultats scolaires des enfants. Tout ce qui m'était maintenant ou pénible ou indifférent. À la faveur d'une confidence, une femme ou un homme qui avouait être en train de vivre ou avoir vécu un amour dingue pour un mec ou une relation très forte avec quelqu'un, j'avais envie de me livrer quelquefois. L'euphorie de la complicité disparue, je m'en voulais de m'être laissé aller si peu que ce soit. Je n'avais dévoilé à mes fils, qui sont étudiants et séjournent irrégulièrement chez moi, que le minimum pratique me garantissant l'exercice facile de ma liaison. Ils devaient téléphoner pour savoir s'ils pouvaient rentrer à la maison et, s'ils s'y trouvaient, repartir dès que A annonçait sa venue. Cet arrangement ne suscitait, extérieurement du moins, aucune difficulté. Mais j'aurais préféré tenir complètement secrète cette histoire vis-à-vis de mes enfants, de la même façon que j'avais toujours caché autrefois mes flirts et mes aventures à mes parents, désir sans doute d'éviter leur jugement. Durant cette période, je n'ai pas écouté une seule fois de la musique classique. Je préférais les chansons, les plus sentimentales, auxquelles je ne prêtais aucune attention avant, me bouleversaient. Elle disait sans détour ni distance l'absolu de la passion et aussi son universalité. En entendant Sylvie Vartan chanter alors « C'est fatal, animal », j'étais sûre de ne pas être la seule à éprouver cela.
C'est fatal, animal, la guerre entre nous. Mais le premier qui fera du mal deviendra presque fou. C'est fatal, animal, l'amour entre nous. Mais celui qui voudra l'idéal aura faux jusqu'au bout. C'est fatal. C'est fatal, animal, comme la corde au cou. Mais le premier de nous qui en parle retombera à genoux. C'est fatal, animal, d'être encore jeune. Celui qui perdra son étoile se souviendra de tout. Espèce de chien, je t'ai suivi de mélodrame en mélodie. Espèce de rien, je t'ai choisi. Fatal, animal, d'être encore debout. Mais celui qui ouvrira le bal souffrira de partout. C'est fatal, animal, de s'aimer surtout. Mais le dire serait un vrai scandale et le faire un tabou. C'est fatal.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Dans les journaux féminins, je lisais d'abord l'horoscope. Il me prenait l'envie de voir sans délai tel film dont j'étais persuadée qu'il contenait mon histoire, très déçu si, lorsqu'il était ancien, on ne le trouvait nulle part, comme l'Empire des Sens d'Oshima. Je donnais de l'argent aux hommes et aux femmes assis dans les couloirs du métro, en faisant le vœu qu'ils m'appellent le soir au téléphone. Contrairement à ma façon habituelle de vivre, je jetais facilement l'argent par les fenêtres. Cela me semblait faire partie d'une dépense générale nécessaire, inséparable de ma passion pour A, incluant aussi celle du temps que je perdais en rêverie et attente, et naturellement celle du corps, faire l'amour à en tituber de fatigue comme si c'était la dernière fois. Qu'est-ce qui assure que ce n'est pas la dernière fois ? Un après-midi où il était là, j'ai brûlé le tapis du living jusqu'à la trame en posant dessus une cafetière bouillante. Cela m'était indifférent. Même à chaque fois que j'apercevais cette marque, j'étais heureuse en me rappelant cet après-midi avec lui. Une fois, en allant chercher nue des bières au réfrigérateur, je me suis rappelé les femmes seules ou mariées, mères de famille, qui dans le quartier de mon enfance recevaient en cachette un homme l'après-midi. Tous écoutaient. Il était impossible de démêler si le voisinage leur reprochait de ne pas avoir de conduite ou de consacrer les heures du jour au plaisir au lieu de nettoyer leurs vitres. Je pensais à elle avec une profonde satisfaction. Tout ce temps, j'ai eu l'impression de vivre ma passion sur le mode romanesque. Mais je ne sais pas maintenant sur quel mode je l'écris, si c'est celui du témoignage, voire de la confidence telle qu'elle se pratique dans les journaux féminins, celui du manifeste, ou du procès-verbal, ou même du commentaire de texte. Je ne fais pas le récit d'une liaison. Je ne raconte pas une histoire qui m'échappe pour la moitié. Avec une chronologie précise, il n'y en avait pas pour moi dans cette relation. Je ne connaissais que la présence ou l'absence. J'accumule seulement les signes d'une passion, oscillant sans cesse entre toujours et un jour, comme si cet inventaire allait me permettre d'atteindre la réalité de cette passion. Il n'y a naturellement ici, dans l'énumération et la description des faits, ni ironie ni dérision. Ils sont des façons de raconter les choses aux autres ou à soi-même, après les avoir vécues, non de les éprouver sur le moment. Quant à l'origine de ma passion, je n'ai pas l'intention de la chercher dans mon histoire lointaine, celle que me ferait reconstituer un psychanalyste, ou récente, ni dans les modèles culturels du sentiment qui m'ont influencé depuis l'enfance. Autant N'emporte le vent, Phèdre, où les chansons de Piaf sont aussi décisives que le complexe d'Oedipe. Je ne veux pas expliquer ma passion, cela reviendrait à la considérer comme une erreur ou un désordre dont il faut se justifier, mais simplement l'exposer. Les seules données peut-être à prendre en compte seraient matérielles, le temps et la liberté dont j'ai pu disposer pour vivre cela. Il aimait les costumes Saint-Laurent, les cravates Cerruti et les grosses voitures. Il conduisait vite, avec appel de phare, sans parler, comme entièrement livré à la sensation d'être libre, bien habillé, en situation dominante sur une autoroute française, lui qui venait d'un pays de l'Est. Il appréciait qu'on lui trouve une ressemblance avec Alain Delon. Je devinais, autant qu'on puisse le faire avec justesse lorsqu'il s'agit d'un étranger, qui n'était pas attiré par les choses intellectuelles et artistiques, malgré le respect qu'elles lui inspiraient. À la télévision, il préférait les Jeux et Santa Barbara. Tout cela m'était égal, sans doute parce que je pouvais considérer les goûts de A, étranger, comme des différences culturelles avant tout, alors que chez un Français, ces mêmes goûts me seraient apparus d'abord comme des différences sociales. Ou, peut-être, avais-je plaisir à retrouver en A la partie la plus parvenue de moi-même. J'avais été une adolescente avide de robes, de disques et de voyages, privée de ses biens parmi des camarades qui les avaient. À l'image de A, privée avec tout son peuple, n'aspirant qu'à posséder les belles chemises et les magnétoscopes des vitrines occidentales. Qu'il soit étranger rendait encore plus improbable toute interprétation de son comportement, modelée par une culture dont je ne connaissais que l'aspect touristique, les clichés. J'avais d'abord été découragée par ses limites évidentes à la compréhension mutuelle, renforcée par le fait que, s'il s'exprimait assez bien en français, je ne parlais pas sa langue. Puis j'ai admis que cette situation m'épargnait l'illusion de croire à une parfaite communication, voire fusion entre nous. Dans le léger décalage de son français par rapport à l'usage habituel, dans l'hésitation que j'éprouvais quelquefois sur le sens qu'il attribuait à un mot, je mesurais à chaque instant l'à peu près des échanges de paroles. J'avais le privilège de vivre depuis le début, constamment, en toute conscience, ce qu'on finit toujours par découvrir dans la stupeur et le désarroi, l'homme qu'on aime est un étranger. C'était « Passion simple » de Annie Ernaux, édité aux éditions Gallimard en 1992. Nous avons écouté en pause musicale « Camélien, ta confiance », puis Sylvie Vartan, « C'est fatal animal ». Pour la seconde et dernière partie de ce texte, je vous donne rendez-vous demain à 18h dans Voix au chapitre, si vous le voulez bien.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.